on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, on parle d'amour au travail. Le coup de foudre à la machine à café ou lors d'un séminaire d'entreprise existe bel et bien puisque 14% des couples se forment au bureau selon un sondage IFOP. Mais qu'on soit séparé de quelques étages, qu'on tienne ensemble un restaurant ou qu'on se soit amouraché de son supérieur hiérarchique, les répercussions ne sont pas les mêmes sur la vie intime. Alors faut-il garder sa relation secrète ou en parler à ses collègues? Que disent les règlements intérieurs des entreprises à ce sujet? Et une fois à la maison, comment laisser la vie professionnelle au bureau? Et puisque l'amour parfois finit, comment continuer à travailler ensemble lorsque la relation est terminée? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes accompagnés de la psychothérapeute Véronique Cohn, spécialiste des relations amoureuses et psychologue du travail en duplex depuis Montpellier, dans le sud de la France, mais également de Maude Camara, directrice des ressources humaines de Petro-Ivoire. Elle sera au téléphone avec nous depuis Abidjan, un peu plus tard dans l'émission. Pour leur poser vos questions ou pour nous raconter une belle rencontre au travail et comment vous gérez votre relation, contactez-nous dès maintenant. Le numéro WhatsApp de l'émission, c'est le 33 7 64 45 51 41.
On est unis dans la diversité, malgré toutes nos différences. Il y a toujours quelque chose qui nous rapproche.
C'est l'amour, ça.
Voilà, d'accord. C'est l'amour.
Vous êtes nombreux déjà à nous appeler au standard, mais ce sont surtout des hommes qu'on entend. Alors mesdames, n'hésitez pas non plus à nous appeler. Je redonne encore une fois le numéro WhatsApp, le 33 7 64 45 51 41. Et juste avant de donner la parole à notre invité, voici quelques messages que nous avons reçus sur WhatsApp justement de la part de Nelson Théodore et ici William de Noisy-le-Roi.
Bonjour les voisins et les voisines. La relation amoureuse au travail, c'est pas la fin du monde, ça peut arriver. Mais je peux dire que c'est aussi un casse-tête. Parce que tout le temps, vous voyez au travail, et après, c'est des surveillances, c'est de la filature, en fait, qu'on le veut ou non. Après, c'est la jalousie qui va s'installer. Vous pensez peut-être que, puisque c'est avec moi aujourd'hui, demain, après, c'est pas avec un tel, telle personne, tel collègue. Donc voilà. Donc, moi, je pense que c'est bien, mais ça demande beaucoup de maîtrise. Sinon, c'est la guerre tout le temps. Merci.
Bonjour les voisines et les voisins. C'est Nelson depuis Bangui, en République centrafricaine. Une relation amoureuse au travail n'est pas un problème si cet amour est véritablement réciproque et n'est pas basé sur des intérêts éventuellement malsains. Une différence se fera naturellement entre ce qui est professionnel et ce qui est intime. Mais les relations amoureuses, malpropres en arrière-plan, ont une forte possibilité de conduire au bazar dans le milieu professionnel.
Bonjour, je suis Nojitebe Archiduc Théodore. Je suis à N'Djamena au Tchad. En 2018, j'étais tombé amoureux d'une de mes collègues. On a vécu une relation sentimentale qui s'était bien passée. Mais on se cachait, on ne faisait pas comprendre aux autres personnels que nous sortons ensemble parce que l'organisation dans laquelle nous travaillons interdise des relations interpersonnelles et c'est en cachette que nous le faisons. Généralement, pendant le week-end, on vient dans une ville qui est à plus de 80 km de là où nous travaillons pour causer, se faire des bisous, pour faire des câlins et autres. 11 jours, notre directeur nous a surpris, il a compris. Et finalement, pour ne pas perdre mon poste, j'étais obligé de dire à cette fille-là qu'il faudrait mettre fin à notre relation.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
14% de relations amoureuses, je le disais, naissent au travail. On parle ici de relations durables, bien sûr, puisque les flirts ou les histoires sans lendemain, on va dire, elles, sont encore plus courantes. Près de 55%, cette fois, en tout cas en France. Bonjour Véronique Cohn.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis les studios de France Bleu Héros, qu'on salue au passage. Alors Véronique, qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ce lieu de travail, pour former autant de couples ?
Parce que c'est le troisième lieu où on rencontre des partenaires, voilà, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Donc c'est tout à fait cohérent et logique que ce soit un lieu spécifiquement adapté pour faire des rencontres. Après, c'est vrai que la question qui va se poser, c'est le secret. Hein. Est-ce qu'on tient le secret? Combien de temps on le tient? Est-ce que l'environnement, le milieu du travail dans lequel on vit, est-ce qu'il est, il favorise ou est-ce qu'il est d'accord ou pas? Voilà, ça va être toute la question du jardin secret.
Est-ce qu'il y a un côté interdit aussi du travail qui peut jouer sur la création du couple?
Oui, ben il y a une forme de. On dit souvent, on ne mélange pas. Oui, il y a un fantasme. Puis on dit souvent, on ne mélange pas le professionnel et la vie privée. Ça, c'est le premier postulat de base que la plupart des gens ont en tête. Donc après, est-ce qu'on transgresse ou pas? Et effectivement, il peut y avoir une notion de fantasme. La collègue d'à côté qui est dans le bureau ou le hiérarchique qu'on admire. Il peut y avoir ce côté du transfert aussi, hein, si c'est quelqu'un qui a un poste supérieur à nous. Il peut y avoir effectivement un fantasme, une projection idéalisante d'une personne qui travail, qui est distancé en fait. Parce que quand on rencontre sur un lieu de loisir, bon voilà, on est tout de suite amis, il y a une proximité, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de distanciation. Ici, cette distance sociale, elle peut justement augmenter le fantasme.
On parlera justement de ce lien hiérarchique un peu plus tard dans l'émission. Est-ce qu'en attendant, il y a des types d'entreprises, des types de lieux de travail où ce genre de rencontre est plus susceptible de se produire?
Bah, certainement, ouais, dans les grandes entreprises où il y a des, vous savez, des grandes réunions où on est amené à se croiser, des messes et des choses comme ça, forcément on est amené à rencontrer d'autres collègues de travail et c'est des lieux souvent où on est stimulé en fait par la matière grise de l'entreprise.
Parce qu'on est plus nombreux aussi, mais est-ce que, oui. Est-ce que une entreprise qui vend par exemple des assurances et un lycée risque d'être autant d'endroits où naissent les couples?
Ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. Si par exemple je suis dans un lycée et j'aime bien les autres profs, enfin j'ai pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'émulation avec les autres profs, je peux tomber amoureux d'un autre prof si je suis prof. Mais pas forcément. On peut être, ça dépend des goûts et des couleurs. Au contraire, on peut être justement en mode, bah là, je suis prof et j'ai surtout pas envie de fréquenter d'autres profs. Voilà, donc ça va vraiment dépendre au cas par cas, quoi.
Il y a une diversité de profils qui, je suppose, est plus grande, effectivement, dans les grandes entreprises. Alors, vous doutez bien que RFI ne fait pas exception à la règle. Hein. Et je me demandais, du coup, s'il y avait quelque chose de spécifique dans les rédactions. Et ça a été un petit peu confirmé parce que c'est un journaliste qui nous appelle en premier. Bonjour, Paul Loy.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Conakry, en Guinée, et vous travaillez justement en tant que journaliste à la radio aussi, alors pas à RFI.
Oui.
Vous avez rencontré une jeune fille à Conakry. Est-ce que vous pourriez nous raconter?
Oui, bien sûr. C'est une relation qui a vu le jour en 2018, comme je le disais avant, et avec une stagiaire qui travaillait, donc son nom reste X. Au début, c'était une relation dormante, mais au fur et à mesure... On est sorti de l'ombre en 2020, malgré qu'il y avait une tonne de jalousie qui régnait autour de moi, au travail, par des collègues et quelques chefs, mais ça finit par être en vent de soutien du côté de ces jaloux qui me taquinaient chaque fois à cause de la demoiselle. Et ça ne m'a pas été facile, hein. Du coup, ça ne m'a pas été facile avec les chefs et mon travail. Mais avec mon sérieux, ma fidélité, les collègues se sont mobilisés à me soutenir moralement pour que le mariage avec la demoiselle aujourd'hui puisse être la tête des choses. Mais ce qui reste clair, au début, j'étais troublé, et je ne comprenais absolument pas rien, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient sincèrement de la jeune demoiselle. Et moi, je ne regardais pas ça, je me concentrais sur mon travail. Et la petite, elle a vu que sincèrement, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas dans ce genre de trucs. Et je me suis toujours concentré sur mon travail et là elle s'est concentrée aussi sur moi et on travaillait maintenant à deux et du coup un jour elle m'a invité au restaurant et je ne voulais pas accepter mais par fini j'ai cédé et c'est au cours de ça elle m'a avoué sincèrement qu'elle m'aimait et moi j'ai aussi réfléchi, j'ai compris que c'est quelque chose qu'il ne faut pas rejeter parce que déjà la petite elle était jolie, il faut le dire, elle est intelligente. On ne peut pas dire qu'elle était à 100% fidèle, parce que c'était en début.
Et du coup, je craignais pour ne pas mettre en paille par fini, je regrette, mais j'ai compris que au fur et à mesure que c'était une petite qui était sincère et fidèle à moi, et on a fini par s'aimer à 100% au travail. Mais néanmoins, avec le travail, j'ai compris quelques nuances dans mon travail. Je n'étais pas trop concentré avec son temps. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer avec le travail. Et j'ai fini en tout cas par gérer ces deux systèmes en même temps, le travail et la petite. Et je lui ai dit que quand je suis en train de travailler, il ne faut pas qu'elle mêle, c'est-à-dire l'amour avec le travail, et elle a compris, elle aussi, quand c'est en temps de travail, et le travail de son côté, et également moi aussi, je travaille.
Il y a un respect de l'espace de l'autre. Si j'ai bien compris, Paul Loy, vos réticences, elles étaient liées au fait qu'il y ait des jalousies de la part de vos collègues, parce que la jeune fille était convoitée par vos collègues aussi ?
Oui, bien sûr, parce que je disais que la petite, elle était jolie et gentille, bon, tout le monde voulait la petite. Et moi, je ne voyais pas ça, je me concentrais sur mon travail. Bon, vous savez, on dit toujours, quand vous basez trop sur une fille, elle finit par vous fuir, mais quand vous faites comme si vous ne la regardez pas, elle finit par s'approcher. Elle se pose des questions, en fait. Pourquoi ce dernier ne court pas derrière moi? Et au moment où les chefs et les autres sont là à courir après moi, elle a fini par se concentrer sur moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Jusque maintenant, là, nous prétendons d'ailleurs sur un chemin de mariage.
Et comment vos collègues ont perçu le fait que ensuite vous officialisez la relation avec elle?
Ah ben, on a fait. C'était une relation dormante, comme je le disais. On a fait à peu près quelque chose de 3 ans. On sortait, mais personne ne savait entre mes collègues là-bas au travail.
3 ans dans le secret.
Oui, 3 ans dans le secret, parce que après le travail, on faisait comme s'il n'y avait absolument pas une relation entre moi et elle. Voilà, et c'est après le travail, on se retrouvait au cours des déjeuners au restaurant, on sortait dans les boîtes, etc. Elle m'invitait chez elle, et également moi aussi je l'invitais chez moi, où déjà elle a tissé une très bonne relation avec ma famille, et du coup, je crois bien ça marche, là-haut.
Est-ce que vous avez un conseil, Paul Loy, à donner à des jeunes qui seraient dans votre cas, qui n'oseraient pas officialiser une relation au travail?
Bon, ce que je peux avancer à ce niveau aux gens, c'est que dans une relation, il ne faut pas d'abord s'afficher. Il faut que vous vous étudiez dans l'ombre. Parce que ça peut trouver que tu peux afficher une demoiselle qui n'est pas claire. Tu peux afficher un mec aussi qui n'est pas fidèle, qui n'est pas de ton genre. Alors, je dirais à tout le monde au travail, si vous voulez tisser une relation avec une demoiselle ou un mec, il faut d'abord l'étudier mentalement, physiquement, et avant de tout lancer, pour ne pas regretter plus tard. Parce que vous pouvez au travail, parce qu'une fois que vous regrettez, une fois que vous regrettez sincèrement, vous verrez que vos chefs d'abord vont finir par se méfier de vous. Parce que il y a ce qu'on appelle, vous savez, dans le travail, quand vous travaillez fort et qu'on voit en vous votre travail, ça commence à se dégrader, à cause d'une demoiselle, sincèrement, les chefs, ils vont vous larguer. Et avant que cela ne se fâche, il faut voir réellement que si la petite là, si vous sortez avec la petite là, vous pouvez, c'est-à-dire finir par mariage, et vous pouvez comprendre, c'est possible que vous sortiez avec cette demoiselle. Mais si vous voyez ce monsieur, ou bien cette demoiselle n'est pas concrète, son travail, elle n'est pas... C'est qu'elle est compliquée, c'est mieux de lui laisser, de ne pas vous lancer dans ce genre de relation. Sinon, par fini, vous allez vous retrouver dehors de la société, dehors du cours des murs du travail, je veux dire. Avant que cela ne se passe, il est mieux de s'étudier dans l'ombre avant de se suivre.
S'étudier dans l'ombre, oui, être sûr de son choix avant de se lancer. Merci beaucoup, Paul Loy, pour votre témoignage. Véronique Cohn, ce qu'on a entendu, c'est que Paul Loy et sa petite amie ont gardé leur relation secrète pendant 3 ans. Est-ce que c'est beaucoup, 3 ans dans le secret?
Moi, je trouve que 3 ans, ça fait beaucoup. Parce que j'aurais dit comme lui, j'aurais dit, bon, une amourette qui démarre, Est-ce que c'est juste un plan cul ou est-ce que c'est quelque chose qui va commencer à durer et est-ce qu'on va créer une relation d'engagement ou pas? On n'en sait rien au départ. Donc au départ, moi je dirais, bon voilà, on va tenir le secret parce que ça me paraît évident, que c'est pas besoin, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant. Après, assez rapidement, il y a les, même si on dit pas, hein, au bout de 3, 4, 6 mois, je pense que les collègues commencent à s'en douter. Mm-hmm. Parce que vous savez, quand on est amoureux au travail, on est un peu happé, hypnotisé, ce qu'on appelle l'énergie de la nouvelle relation, hein. Que ce soit au travail ou pas au travail, on est un peu hypnotisé par la nouvelle personne. C'est-à-dire et il y a l'état amoureux, bah il y a l'espèce de d'état amoureux qui se génère. Si ça dure, si c'est une relation qui est amenée, qui est éphémère et qui est amenée à se voir 2-3 fois et puis hop, on se rend compte que ça fait pas l'affaire. Bon, ok, c'est comme n'importe où. Mais si on commence à se produire un état amoureux et que on peut être passionné et puis moins concentré au travail. Et effectivement, puis les gens, et alors les clins d'œil. On a envie de passer du temps avec elle, donc on l'a. Bon, donc on passe du temps au téléphone, on trouve des extruses, voilà, ou on se téléphone. Alors les collègues s'en rendent compte. Donc, en secret pendant 3 ans, moi je trouve que ça fait beaucoup parce qu'on a le temps de voir venir entre 0 et 3 ans, on a le temps de voir venir si la relation commence à devenir sérieuse, engagée, quoi, plus dense. Donc à ce moment-là, moi je pense que quand on voit que ça commence à devenir un peu plus sérieux, on pourrait peut-être commencer à assumer, à sortir de la confidentialité parce que, voilà, on s'en doute. Et puis, puis c'est mal vu surtout. Je pense que c'est mal vu justement de ne pas assumer. Ça dépend des entreprises. Hein. Il faudrait voir il y a des entreprises quand on dit ce qu'ils sont interdits, on interdit l'amour au travail. Bon, là, c'est un peu les codes sont les règles du jeu sont pas les mêmes. Mais sinon, l'assumer, c'est toujours se rendre libre. À ce moment-là, le couple, si vraiment il y a une problématique autour de l'environnement au travail et que c'est rejeté, qu'ils supportent pas, que les autres ne supportent pas que la liaison continue, alors à ce moment-là, c'est au couple qui se forme de décider si oui ou non ils restent ensemble au même poste ou si souvent, d'ailleurs, ça se finit comme ça. C'est qu'il y en a un qui décide de prendre un autre poste ou de s'éloigner ou de changer d'entreprise, etc. Ça, c'est fréquent quand même. Hein.
Alors, Paulo, il a aussi mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Il parlait de jalousie, du fait qu'il voyait donc la fille qu'il aimait bien se faire draguer par d'autres collègues. Et ça, c'est un risque qu'on prend aussi au travail quand on officialise une relation, même quand elle n'est pas officielle finalement.
Oui, mais en même temps, c'est hyper stimulant. C'est ça que je disais. Au travail, souvent, il y a quelque chose de l'ordre de différent que dans la sphère privée. C'est qu'au travail, on peut admirer l'autre plus facilement. Il brille sous d'autres feux que dans une connexion traditionnelle, classique, en fait. Et donc, oui, les autres peuvent être jaloux, mais ça augmente la stimulation. Si les autres sont jaloux de la femelle, entre guillemets, que je possède, hein, regardons dans le monde animalier, alors à ce moment-là, moi, ça augmente le fait que j'ai bien choisi. J'ai choisi une partenaire de qualité, par exemple.
Alors, on part au Cameroun à présent. Bonjour, Abdoul Raouf.
D'accord, merci.
Abdoul Raouf, vous avez, vous aussi, rencontré quelqu'un au bureau. Est-ce que vous pourriez nous raconter?
Oui, bonjour, Mère Amélie. Bonjour, les voisins. Bonjour, les voisines. Oui, en fait, j'étais dans une entreprise, là. Et puis, j'ai rencontré une demoiselle. Puis, avec le temps, on s'est connus et nous sommes tombés amoureux l'un contre l'autre. Et pendant trois mois, cela s'est passé par secret. Personne n'a su. Plus tard, notre chef hiérarchie a su cela. Puis, il n'est pas passé par moi, mais il est passé par la jeune demoiselle. En lui prenant au bureau, puis la demandant. Mais toi et Abdoul Raouf, qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, je vois comme s'il y a des sentiments sérieux entre vous, là. Puis la jeune demoiselle étant coincée, elle a avoué, oui, ça a été pendant longtemps. Et que nous sommes ensemble et maintenant, ça se passe très bien entre nous. Puis avec le temps...
Donc c'est votre supérieur qui a pris l'initiative de vous en parler pour clarifier la situation, c'est ça?
Justement, madame, puisque la relation... intercollègue n'est pas interdit dans notre entreprise. C'est pas interdit.
Oui, Abdoul Raouf, comment est-ce que vous avez fait, vous, au quotidien, une fois que vous aviez eu l'aval de votre supérieur? Maintenant, côté vraiment pratique, comment est-ce qu'au quotidien, au travail, vous gériez votre relation avec votre petite amie? Est-ce que vous vous croisiez, par exemple, beaucoup?
Oui, dans le cas de travail, au moment où on travaille, on oublie l'amour. on travaille sincèrement et avec sérieux. Mais quand il y a des moments où nous avons des pauses, on se voyait, puis on sortait ensemble pendant la pause, puis on rentrait ensemble, on se voyait aussi au quartier, on s'invitait, puis on se voyait même à la maison, je quoi. Bon, mais ça m'a pas causé de problème en tant qu'été ni à la jeune demoiselle. Juste plus tard, là, cela m'a coûté à une affectation à environ 300 km de là où j'étais. Certes, il y a eu promotion, mais je suis sûr que c'est par jalousie que cela est arrivé quand même.
Donc là, vous êtes en relation à distance, c'est ça?
Oui, actuellement, oui, à distance, à environ 300 km.
Et vous vous voyez combien de fois?
Oui, souvent, il y a des moments où on peut se voir une fois dans la semaine, souvent... En nous, on se voit deux à trois fois. Si l'un d'entre nous voyage, passe même deux à trois jours comme ça, avec la permission de la hiérarchie, quoi.
D'accord. Et ça se passe bien, cette relation à distance?
Oui, ça se passe très bien. Ça se passe bien. À chaque fois, je suis au téléphone. À chaque fois, nous sommes au téléphone. Appel vidéo, WhatsApp, par message, constamment là.
Oui, et en plus, vous avez la... En plus, vous avez la bénédiction de votre entreprise, donc ça a l'air merveilleux. Merci beaucoup, Abdoul Raouf. Véronique Cohn, la fréquence à laquelle on croise son ou sa partenaire sur le lieu de travail, à quel point est-ce que ça influe sur la relation?
Ah oui, ça influe, effectivement. Bon, alors, effectivement, lui, il dit « je reste très concentrée, donc il y a un temps pour travailler et un temps pour être en état amoureux, quoi.
Mais c'est pas évident, ça, de laisser son couple sur le palier du lieu de travail et puis de laisser le travail derrière.
Ça dépend de l'état amoureux. Ça dépend de l'état amoureux. Si c'est le début et c'est qu'il y a quelque chose de très passionnel, bah je dirais non, c'est pas évident de faire comme si je travaille et je ne suis pas envahie par l'autre. D'accord? Maintenant quand la relation est là pour lui, la relation est un peu installée. Voilà. Mm-hmm. Donc elle est installée, donc elle est rentrée dans le cadre en fait, hein. Et donc à ce titre-là, il y a un temps pour être très concentré au travail, ça change pas grand-chose. Et puis quand on est ensemble, voilà. Là c'est des espaces séparés, mais c'est parce que la relation est installée pour moi.
Alors il y a effectivement des entreprises qui permettent le fait de ne pas se croiser tous les jours. Mais imaginons par exemple, c'est faux, hein, mais si Abdoul Raouf et sa petite amie par exemple tenaient un commerce ensemble, une affaire ensemble, ou qu'ils étaient, je ne sais pas, un duo de comédiens qui travaillaient dans la même troupe, un auteur et un illustrateur, enfin des gens qui travaillent, vous voyez, en duo, qui travaillent vraiment ensemble H24, est-ce que c'est important de s'aménager du temps pour soi? Ah oui. En dehors de la maison et du travail, et comment on fait?
Alors là, c'est une configuration différente, qui est une configuration que moi-même j'ai connue, puisque j'ai travaillé, je travaille encore, mais moins avec mon compagnon. Et donc on animait des stages ensemble, donc on travaillait tout le temps ensemble, on fait le même métier, etc. Alors il y a des avantages. L'avantage, effectivement, c'est que... notre relation, elle se cimente autour des projets professionnels aussi. Mmh. Et c'est quelque chose qui augmente la richesse de la relation parce qu'on se voit fonctionner au travail. Après, c'est vrai, la question qui est espace séparé, espace commun, on parle toujours, enfin, tout est mélangé à ce moment-là, hein. On parle de vie privée au travail, de travail dans la vie privée, on fait tout est en même temps. Est-ce que ça génère une nuisance ou pas au sein de la relation? Pas forcément. Parce que je crois que ces couples-là, en tout cas ceux qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui le font et qui continuent de le faire, c'est qu'ils savent justement garder des temps d'intimité, des temps où on fait autre chose que de parler du boulot, on partage d'autres choses. Et ils savent aussi donc créer ces espaces séparés, mais aussi enrichir la relation par l'espace du travail, en fait. C'est-à-dire, ah oui, c'est super, on peut voir des facettes de notre partenaire qu'on ne verrait jamais sinon. Ouais. Exactement. Moi, je sais que je l'ai vécu comme ça. Après, la question qui va se poser, c'est les prises de pouvoir. Attention, c'est le bémol que je dirais, c'est est-ce qu'il y en a un, parce que c'est facile de prendre le pouvoir sur l'autre quand on a un commerce ensemble, etc., que un... et une position au départ non hiérarchique et qui facilement prend le contrôle sur l'autre en se considérant comme le sachant, celui qui gère mieux le budget, celui qui prend les décisions et qui soumet l'autre, ou l'autre se soumet parce qu'il s'adapte à l'autre et qu'il a, il a pas la, la capacité d'avoir du répondant, en fait. C'est
une
ça,
sorte
le
de rivalité qui s'installe. Ouais.
C'est ça. Et c'est pernicieux parce que au départ c'est pas fait pour ça. Au départ c'est pas installé comme ça. Au départ c'est on a un projet en commun, c'est super, on va le lancer et puis on verra. Il y a pas de rôle figé de qui fait quoi et finalement c'est intéressant dans ces milieux-là, dans cette configuration de dire et moi je fais quoi, qui fait quoi, quel est mon cahier des charges, quel est le tien, où sont les limites de chaque rôle de chacun en fait.
Alors on va continuer notre discussion dans quelques instants. Nous attendons toujours vos appels sur le WhatsApp de l'émission. Le numéro c'est le 337 64 45 51 41. Et tout de suite on écoute le dilemme amoureux du chanteur ivoirien Daouda. C'est La femme de mon patron sur RFI.
La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Devant cette situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, une émission consacrée aujourd'hui aux relations amoureuses au travail. Avec nous depuis le sud de la France, la psychothérapeute Véronique Cohn, spécialiste des relations amoureuses et également psychologue du travail. Et en parlant de femme du patron, nous avons une auditrice qui tombe à point. Bonjour Clara.
Bonjour Amélie.
Alors Clara.
Bonjour chers voisins.
Bonjour, vous nous appelez d'Abidjan en Côte d'Ivoire et vous êtes, je crois, tombée amoureuse de votre directeur. Comment ça s'est passé ?
Ben, à la fin des années 90, je venais juste d'avoir mon BTS quand j'ai commencé à travailler dans une entreprise de la place. Mmh. Et donc là, je rencontre mon patron, un monsieur très grand et très costaud. Bon, il faisait un peu peur d'ailleurs. Et donc là, je trouvais qu'il était beau, mais bon, sans plus, parce que j'étais avec quelqu'un. Et donc, le patron, lui, je le trouvais trop sévère avec moi. Je me demandais pourquoi, et ma voisine, ma collègue qui me dit, « Ah tiens, j'ai l'impression qu'il est amoureux de toi. » Je dis non, je ne crois pas. Une petite nouvelle, c'est pas sûr que je puisse l'intéresser à de belles femmes dans l'entreprise. Et donc, ça va, au fur et à mesure, je vais me rendre compte que c'était vrai ce que ma collègue m'avait dit. Parce que quand il ne me voyait pas, déjà, il embêtait tout le monde pour savoir où j'étais. Et donc, comme ça, quand je me suis séparée de la personne avec qui j'étais, je me suis mise avec quelqu'un dans l'entreprise. Mais il a tout fait pour qu'avec cette personne, ça ne marche pas, parce que c'était un ami à lui. Et donc, bon, j'ai laissé tomber. Après, la crise est arrivée et il a fallu que je... Il m'a mis sur la liste des personnes qui devaient partir en congé technique. Bon, ça m'a fait mal. Je ne savais pas. C'est après qu'il va m'avouer que c'est parce qu'il ne voulait pas travailler dans la même société avec la personne avec qui il était. Et donc, moi, on me met en chômage technique. Je me retrouve au chômage à la maison. Et là, un jour, dans le supermarché, je le rencontre. Il me dit, ah tiens, invite-moi à prendre un pot. Bon, je dis, bon, c'est comme vous voulez, mais bon, je n'ai pas votre contact. Donc, il me donne son numéro. Et c'est comme ça que notre relation va commencer. Et quand il a fallu réintégrer les personnes qui étaient au chômage technique, il m'a laissé dehors.
C'est-à-dire, il vous a laissé dehors?
Eh bien, on ne m'a plus rappelé. J'ai été licenciée, je suis restée dehors parce que il ne voulait plus que j'intègre l'entreprise parce qu'on avait commencé la relation.
Donc il a sacrifié votre emploi pour que vous puissiez sortir ensemble?
Oui.
Et vous avez continué votre relation avec lui?
Oui, j'ai continué. C'est longtemps après qu'il m'a avoué ça. Ah. Et donc, on a eu deux enfants. On a eu deux enfants par la suite. On est restés ensemble jusqu'à ce qu'il, malheureusement, décède il y a 5 ans. Il est parti.
Et
voilà. Donc,
Et donc c'est une histoire, une très belle histoire d'amour que vous avez vécue en tout cas avec votre directeur. Vous avez deux enfants avec lui, c'est ça?
Oui, nous avons eu deux garçons. Et même que quand j'avais les enfants, mes amis, collègues qui étaient dans l'entreprise n'avaient pas le droit de venir parce qu'ils ne voulaient pas mélanger sa relation avec sa vie professionnelle. Lui, il a été catégorique, il dit non, je coupe tout court. C'est pour ça que je n'ai pas voulu que tu reviennes dans l'entreprise. Mmh. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est resté.
Bon, alors on va. Merci beaucoup Clara pour votre témoignage. On va rester en Côte d'Ivoire, cette fois avec une directrice des ressources humaines qui va nous donner justement aussi quelques conseils et puis sa vision à elle. Bonjour Maud Camara.
Bonjour Amélie.
Alors vous êtes donc DRH de l'entreprise Petro-Ivoire à Abidjan. C'est une grosse entreprise. Il y a combien d'employés à peu près dans cette boîte?
On est à peu près 450, entre 450 et 500.
Et parmi ces employés, est-ce que vous avez une idée du nombre de couples qui peuvent s'y être formés?
Alors, non, pas vraiment. J'avoue que je n'ai pas vraiment cherché à savoir combien de couples on a formés en intra-entreprise. Mais je peux dire qu'on a eu quand même un couple, enfin à ma connaissance, entre un employé et un prestataire. Donc, il s'est soldé par un mariage. Donc, ils sont mariés depuis, ils ont des enfants. Bon, ben voilà. Donc, bon, ça reste encore dans l'entreprise. Mais ce n'est pas inter-employé, en fait.
D'accord. Et comment c'est perçu, justement, dans votre entreprise? Est-ce que ça passe mieux parce que ce n'est pas inter-employé, comme vous venez de dire?
Bah, écoutez, moi, je sais que ça a commencé depuis un moment. Quand ça a commencé, bon, il n'y avait pas vraiment de gêne, a priori. Donc, j'ai pas vu de problème. Au niveau des collègues non plus, il n'y a pas eu de problème à part les petites taquineries. Même moi qui taquinais aussi, et le prestataire et l'employé en fait qui était concerné. Vu que tout se passait bien, normalement, il n'y a pas de souci en fait. Il n'y avait pas de souci.
Alors, Maud Camara, il y a certains règlements d'entreprise dans le monde qui peuvent limiter ce droit d'entretenir une relation amoureuse avec un autre employé. Je pense notamment aux États-Unis. En 2019, il y a le directeur général de la chaîne de restauration rapide McDonald's qui a par exemple été licencié après avoir entretenu une relation avec un membre du personnel. Mais ce qui lui était surtout reproché, c'est qu'il y avait un lien hiérarchique entre lui et cette membre du personnel. Donc ça veut dire que chez McDo, en tout cas oui, dans cette entreprise, si vous sortez avec quelqu'un qui est dans un service complètement différent du vôtre, mais qui a un grade supérieur, votre relation est considérée comme répréhensible, en tout cas par l'entreprise. Est-ce que c'est le cas aussi en Côte d'Ivoire?
Alors, dans certaines entreprises, ça peut être le cas, oui. Tout dépend des règles de gestion de cette entreprise-là. Mais bon, je pense que ce n'est pas quelque chose de légal en tant que tel. Mais si ça fait partie des valeurs de l'entreprise de ne pas mélanger la vie de couple à la vie professionnelle parce qu'il peut avoir des impacts sur la productivité de l'entreprise, ça, c'est interne en fait à toutes les entreprises. C'est interne en fait aux entreprises. Donc, c'est un choix délibéré. C'est un choix qui est connu normalement, qu'on fait savoir aux collaborateurs. Et après, les gens fonctionnent en fonction de ce choix-là. Ici, à Petro-Ivoire particulièrement, on n'a pas intégré ça dans nos valeurs. On part juste sur le fait que l'entreprise est un lieu où on peut rencontrer des personnes parce que c'est l'endroit qu'on fréquente le plus finalement. Donc, pour deux personnes qui sont célibataires, il est possible que des couples se créent. Mm-hmm. Donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile en fait de créer un interdit. Par contre, si la formation d'un couple en entreprise peut avoir des répercussions sur le travail, là, à ce moment, ça devient comportemental. Et donc, les responsables, donc nous sommes le responsable des ressources humaines, est tenu quand même de gérer, en fait, tout ce qui peut constituer un conflit, soit dans le cadre du travail ou un conflit, soit dans le cadre de deux personnes. Parce que tout dépend, en fait, du comportement de chacun, comme je vous ai dit. Si ces deux personnes qui sont matures, a priori, elles savent faire la distinction entre le travail et la vie de couple. En Afrique aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même on a quand même cette pudeur en fait au niveau de ces relations. Donc on ne s'affiche pas partout. Mmh. On s'affiche pas partout. Après, bon, ça c'est plus lié en fait à notre culture. Mais après, théoriquement, ça pose pas de problème en tant que tel. Fondamentalement, ça ne pose pas de problème.
Alors restez avec nous, Maud Camara, et on va prendre l'appel d'une de vos...
Attendez, je voudrais quand même revenir sur la spécificité de la relation hiérarchique. Parce que là, on parlait il y avait le témoignage d'un patron, une secrétaire, et puis on parlait de la relation hiérarchique. Il y a une distinction entre les relations collègues, à mon avis, transversales, et la relation hiérarchique quand elle devient amoureuse. Parce que pourquoi est-ce qu'elle est justement, cette relation est de nature différente et que on a plus tendance à juger que le patron ne devrait pas fonctionner avec sa secrétaire. D'ailleurs, de lui-même, il l'avait mise au chômage carrément. C'était catégorique, quoi. Je pense qu'il y a une réputation qui a été faite comme ça. Alors, est-ce qu'elle est toujours vraie aujourd'hui par rapport au patriarcat ou par rapport à cette... Dans les mentalités, il y a certainement encore cet esprit du droit de cuissage qui fait que si on est patron, alors on ne devrait pas, comme ça, avoir le droit de fréquenter des personnes qui sont des collaborateurs, quoi, en clair. Hein. Et donc, je pense que ça reste encore majoritaire dans nos esprits. Et que c'est une relation qui est beaucoup moins bien vue que des relations transversales.
Oui, c'est peut-être même encore plus vrai, vous allez me dire, peut-être Maud, vous pourriez répondre à cette question, c'est peut-être encore plus vrai maintenant à l'ère de MeToo, où il peut aussi y avoir des jeux d'abus de pouvoir entre un supérieur et une employée.
Oui, je pense que c'est plutôt ça, voilà, la remise en cause en fait des décisions du responsable. Parce que quand on a une relation hiérarchique avec quelqu'un, lorsqu'on prend une décision par rapport à cette personne, ça peut être mal perçu par les autres, surtout si c'est une décision qui va en sa faveur. Elle peut être très, très objective, cette décision, mais elle peut être mal perçue par les autres dans la mesure où on peut se dire c'est parce qu'ils sortent ensemble que elle a été avantagée par rapport à une autre personne. Donc, je ne pense pas qu'on soit encore dans le principe du droit de cuissage parce que sur le droit de cuissage, c'était « je suis le patron, donc tu as intérêt à te donner à moi ». Mais là, dans le cas d'espèce, si on est dans une relation, par exemple, correcte, qui se passe bien, où il y a quand même du sérieux dedans, on est plus, en fait, si vous voulez, dans le favoritisme. Voilà, donc ça, c'est la perception
des deux. On a une auditrice, justement, qui, je pense, va pouvoir nous en parler. C'est Awa, elle nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, Awa.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui, ça va.
Alors, racontez-nous votre histoire. Je crois que vous avez une histoire, justement, au travail, avec votre supérieur hiérarchique.
Oui, supérieur hiérarchique, vraiment très très haut placé. Moi, je suis très en bas, j'étais très en bas. Quasiment, on peut dire à l'entrée, et lui, il est vraiment très 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 haut placé. Directeur très très haut placé, en tout cas. Donc, j'ai pas voulu de notre relation au départ, mais avec le temps, il a été très patient. On a eu une relation, on a même eu un petit garçon, ça fait 8 ans aujourd'hui.
9 Félicitations. Ans aujourd'hui.
Voilà, merci. 9 ans aujourd'hui que nous sommes ensemble. Mais dans la relation, c'est toujours moi qui... Je n'ai jamais voulu qu'on le sache. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, les gens vont dire non, c'est parce qu'elle est madame tant qu'elle a avancé. Je voulais vraiment avancer par moi-même. Qu'on voie maintenant ma valeur par mon travail. Lui, bon, lui, ça ne le gênait pas au départ, mais maintenant, il veut qu'on le sache. Et jusqu'à présent, je ne veux pas qu'on le sache. On vit très loin de nos lieux de travail, à Bengerville, et on est jusqu'à à l'intérieur. Donc ça fait que tout est séparé, tout est dissocié et c'est moi mon vouloir parce que je veux vraiment qu'on me valorise dans mon travail, parce que je ne fais pas parce que je suis madame tant.
Donc encore aujourd'hui c'est un secret.
Oui, encore aujourd'hui c'est un secret. Maintenant ça commence à lui peser lui parce que je ne veux pas, j'ai avancé, chaque fois qu'il y a eu des promotions, des offres internes, j'ai postulé, j'ai passé les tests, souvent ça a réussi, souvent ça n'a pas réussi. Ça a réussi 3 fois de suite. Aujourd'hui, je suis responsable. J'ai commencé vraiment très au bas de l'échelle. Aujourd'hui, je suis responsable niveau 1. Mm-hmm. Parce que j'ai vraiment fait vraiment très, très bas comme caissière. Vous voyez, aujourd'hui, je suis responsable niveau 1. J'ai passé 2 étapes après mon entrée. Et je ne veux pas qu'aujourd'hui, on me dise « Non, elle est là parce qu'elle est madame Tant. »
Parce qu'elle est, parce qu'elle est avec... oui.
Voilà.
C'est elle un sujet...
Madame Tant. Ça, vraiment, ça va me détruire. Ça va me détruire. Ça. Et ça me tient tellement à cœur. Que vraiment je lui dis non, parce que même si aujourd'hui mon travail, partout où je suis passé, vraiment, je ne me lance pas des fleurs, mais j'ai bien travaillé, et même j'ai eu une promotion même du fait de mon patron, de mon ancien patron. Je pense que je suis aujourd'hui, c'est mon ancien patron qui m'a proposé, il a refusé que je passe le test, il m'a imposé, parce que mes résultats étaient très bons. Donc si aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, c'est vrai que je suis arrivée par mon travail, mais je me dis qu'aujourd'hui, si on sait que je suis madame Tant, très très haut placée, ils vont dire non, mais quoi qu'il arrive, c'est parce qu'elle est madame tant qu'elle est là aujourd'hui.
Véronique Cohn, est-ce que vous auriez un conseil à donner à Awa pour justement gérer ce conflit qu'elle a avec son conjoint?
Oui, je pense qu'elle a tout à fait raison de protéger son image. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on appelait la promotion canapé à une époque, hein, que tous ses collègues de travail risquent vraiment de l'accuser de favoritisme, quoi. Que c'est facile pour elle, c'est plus facile que pour une autre, c'est la chouchou, voilà. Donc, elle a intérêt à préserver son image et à assumer pleinement la femme qu'elle est, en se distançant justement... Peut-être. Alors elle reste au sein de l'entreprise dans laquelle son patron fait partie, mais protéger le secret, ça me paraît une bonne idée, hein, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Awa pour votre témoignage. J'espère que Véronique Cohn vous a rassuré sur le fait que vous avez raison de vous protéger. Maud Camara, moi j'ai une question.
C'est monsieur qui faut convaincre.
Pardon ?
J'ai dit c'est monsieur qui faut convaincre maintenant.
Ah oui, c'est monsieur qu'il faut. C'est monsieur qu'il faut convaincre. Ben on espère que qu'il nous a écouté. Bah,
pour lui, c'est une posture qui est plus simple, hein, parce que lui, si
il a moins à perdre,
il a moins à perdre
qu'Awa.
Bah clairement, oui.
Maud Camara, merci. Si vous êtes toujours avec nous, j'ai une question pour la DRH que vous êtes. Si vous recevez en entretien d'embauche un candidat qui vous dit qu'il est en couple avec une personne qui est déjà employée de votre entreprise, est-ce que ça va changer quelque chose dans votre décision? À compétence égale avec un autre candidat, bien sûr.
À compétence égale avec un autre candidat, oui, oui, je dirais oui, ça changera quelque chose dans la décision. Dans quelle mesure? En fait, déjà, si c'est quelqu'un qui a l'honnêteté de me dire qu'il est déjà en couple avec quelqu'un. On va analyser en fait, sa position par rapport à la personne avec qui il est en couple. Si c'est une position hiérarchique, naturellement, à compétence égale, je ne le prendrai pas, en toute sincérité. Mais si c'est une position transversale, a priori, ça ne me pose pas vraiment de problème. La seule chose, en fait, il faudrait que je m'assure de sa capacité à rester, à maîtriser ses émotions, à respecter, en fait, la vie professionnelle et les règles de l'entreprise, à respecter, la discrétion, c'est tout. A priori, ça ne pose pas de problème, en fait, que deux personnes soient en couple. C'est juste, en fait, le risque qu'on peut être en train de prendre parce que l'un ou l'autre ne saurait pas se maîtriser.
Est-ce que vous avez voilà, des formations spécifiques en tant que DRH pour gérer ce genre de situation? Les couples dans l'entreprise? Ou c'est quelque chose qui ne se fait pas et que vous apprenez sur le tas?
Non, c'est j'ai pas de formation particulièrement, mais personnellement, en tant que DRH, j'arrive à suivre en fait particulièrement mes équipes. Donc, je sais les conseiller, je sais les orienter, je sais leur faire comprendre en fait certaines choses, surtout rester professionnel et tout. Donc, ce sont des conseils en fait qui sont donnés, mais c'est pas des formations en tant que telles. Je n'en connais pas de spécifiques, mais je pense que dans tous les cas, ça peut arriver à tout le monde tout à l'heure. Ah ouais, on a parlé, elle a dit qu'elle était, elle s'est mise en couple en fait avec son patron L2 ou L3, ça n'a pas vraiment posé de problème parce que vous avez vu un peu sa réaction, elle tenait en fait à avancer selon ses capacités, selon ses propres compétences, elle tenait en fait à son image, elle tenait à sa personne, au respect de sa personne. Alors, je veux dire, avoir un élément comme ça dans l'entreprise, c'est du tout bénéfique pour l'entreprise. Maintenant, quand on a quelqu'un qui n'a pas en fait cette hauteur d'esprit et qui vient en se disant bon, je suis la petite amie du patron, on n'est plus dans une relation intéressée parce que à partir de ce moment-là, je serai en train d'avoir des évolutions parce que mon patron pourrait me faire avancer.
Et ça, par contre, ouais, ça risque de poser effectivement plus de problèmes. Voilà. Merci beaucoup, Maud Camara, d'avoir répondu à nos questions. Et merci beaucoup, Véronique Cohn, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et que vous étiez au studio, en duplex au studio de France Bleu, Hérault. On va se quitter juste après la voix d'Imogen Heap, chanteuse et compositrice anglaise, qui interprétait en 2006 ce titre, une véritable déclaration d'amour, Good Night and Go. Keeping beats, blushing cheeks, struggling, daydreaming, bed scenes in the corner cafe. And then I'm left in bits, recovering tectonic, trembling. You get me every time. Why'd you have to be so cute? It's impossible to ignore you. Must you make me laugh so much? It's bad enough we get along so well. Say goodnight and go. Follow you home, you've got your headphones on. Taking everything off, watch the curtains wide open, and you fall in the same routine, flicking through the TV, relaxed and reclining, and you think you're alone. Oh, why'd you have to be so cute? It's impossible to. Et 7 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été si nombreux à appeler. Désolée pour les auditeurs que nous n'avons pas pu entendre à l'antenne. Merci à Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac et Raphaël Lazizi d'avoir préparé et réalisé cette émission. Demain, nous parlerons de l'avenir de l'adoption internationale suite aux nombreux scandales et aux abus, mais également à un durcissement des législations nationales. Leur nombre est en baisse constante depuis 20 ans. Alors, quelles conséquences pour les enfants concernés, pour les familles et les orphelinats? Pour participer, pour témoigner, appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vos messages sur le WhatsApp de l'émission. Le numéro, c'est le 337 64 45 51 41. Et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur RFI.fr ou sur vos plateformes de streaming préférées. N'hésitez pas non plus à suivre toute l'actu de 7 milliards sur nos réseaux. À demain, vendredi, même heure, sur RFI. Littérature sans